Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Quelles sont les news du cloud ou du DevOps en ce mois de décembre 2022? Aujourd'hui, on va parler de WebAssembly dans Docker, du prix du cloud ou encore des nouveautés chez Scaleway. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans cet épisode d'Actu DevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin puisque tu vas découvrir notre petite sélection d'outils. Avec moi pour parler d'actu, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas.
Salut tout le monde.
Et j'ai aussi Damir. Bonsoir Damir.
Bonsoir à vous tous.
Alors, on va commencer par le traditionnel courrier des auditrices et auditeurs. Et justement, j'aimerais vous en lire deux aujourd'hui. Le premier, c'est un message de Jérém qui nous a laissé sur YouTube. Et Jérém nous dit qu'il vient de découvrir l'émission Trouvaille, puisqu'en fait, il vient de Spotify et c'est une super idée. Alors justement, ça me permet de parler d'un truc, c'est que c'est vrai qu'on est sur un podcast. C'est un podcast que tu écoutes peut-être en... justement sur les applications de podcast, mais sache qu'il y a une chaîne YouTube avec d'autres émissions en plus, notamment les trouvailles, les lives que je fais régulièrement aussi, ou les tutos. Donc si tu m'écoutes en podcast, bah, sache qu'il y a une chaîne YouTube. Donc du coup, merci Jérém, en tout cas ça fait plaisir. Et donc ce que je voulais te dire, c'est principalement ça, c'est vrai que les auditeurs et les auditrices du podcast, ils viennent pas forcément sur YouTube. Et vous d'ailleurs, vous êtes plutôt podcast ou YouTube tous les deux? De manière générale, quand vous consommez ce genre de médias?
Ah, moi, je suis plus team podcast parce que je trouve personnellement que la vidéo, moi, m'apporte peu dans ce genre de cas, même si j'écoute moins de podcasts depuis que je suis passé en full remote et que j'ai pu la joie des transports pour les écouter.
Ouais, moi de mon côté, podcast en faisant la vaisselle, du sport, en voiture, court ou trajet long. Et pour certaines vidéos très très courtes en vidéo, dont quelques talk shows techniques assez sympas.
Alors moi, c'est plutôt podcast dans la salle de bain sous la douche, quand je fais en effet les tâches ménagères, le linge, etc. Et quand je cuisine, que je suis justement dans ma cuisine, c'est plutôt YouTube, puisque en fait j'ai vu direct sur ma télé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et du coup, l'autre message que je voulais vous lire, c'est un message d'Acnote qui nous a laissé justement sur Podcast Addict avec 5 étoiles. Ça fait super plaisir. Et donc, il nous dit « Podcast très enrichissant et la diversité des intervenants ramène un énorme plus. Merci la Dream Team avec un emoji clin d'œil. » Merci Acnote en tout cas de ton enthousiasme. Merci d'avoir laissé un message sur justement Podcast Addict. J'en profite pour dire qu'il y a de la place pour la co-animation et que c'est hyper simple pour venir co-animer avec nous, puisqu'il suffit en tout cas de réserver ta soirée une soirée par mois ou moins même, puisque on tourne, on est assez nombreux pour tourner. Il y a en plus quelques petites heures à la préparation. Si jamais ça t'intéresse de participer au podcast, inscris-toi sur le forum des compagnons du DevOps et viens m'envoyer un MP puisque tout se passe sur le forum des compagnons du DevOps. Et là, je vais me tourner justement vers mes co-animateurs et leur demander qu'est-ce que ça vous apporte à tous les deux justement de participer au podcast. Est-ce que ça vous prend du temps? Est-ce que justement ça vous apporte un truc dans vos vies professionnelles? De co-animer un podcast. Nicolas, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît?
Oui, alors déjà, comme je vous le disais, j'écoute le podcast en faisant du sport, par exemple, donc ça m'évite de râler tout seul dans la salle de sport. Ah, ils ont oublié de parler de ça. Donc ça me permet d'interagir directement avec vous. Et l'autre truc que ça m'apporte, c'est de creuser un petit peu les sujets. Par exemple, l'actu dont je vais parler tout à l'heure, je l'avais survolé rapidement, mais pour pouvoir vous en parler un petit peu plus tout à l'heure, j'ai un petit peu plus creusé. Quand on en discute, ça nous oblige aussi à formaliser un petit peu plus les choses et donc de mieux comprendre certaines choses. Si vous voulez maîtriser un sujet, je vous conseille d'être formateur dans le domaine. Si vos stagiaires n'ont pas appris grand-chose, vous en aurez énormément appris. Et toi, Damir ?
Moi, déjà, pour le temps, je prends pas énormément de temps parce que c'est des news que, dans tous les cas, généralement, j'aurais un peu lu ou creusé. C'est rare que je prenne des news qui, de base, je me serais pas intéressé plus. Après, je suis peut-être aussi un peu le mauvais élève là-dessus, on va dire. Et du coup, autrement, au niveau du podcast en soi, moi, ce qui est intéressant, et je rebondirai un peu sur le commentaire qui a été fait, c'est la diversité des intervenants. Moi, j'aime bien échanger, du coup, sur des sujets avec des personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue, pas eu les mêmes besoins, pas la même expérience, le même ressenti. Et je trouve ça, du coup, super cool, et je pense que c'est un des points forts, entre guillemets, de ce type de discussion. C'est vraiment d'avoir plusieurs points de vue, et au final, quand tu finis le podcast sur un sujet, on n'est pas toujours tous d'accord, et c'est une très bonne chose. Et du coup, on peut finir avec plusieurs points de vue, et c'est à vous, auditeurs, de vous former avec ça, votre propre point de vue et votre esprit critique.
Exactement, merci à vous deux pour votre témoignage. Donc tu l'auras compris si tu nous écoutes, tu peux nous laisser un message sur Apple Podcasts, pour l'instant il n'y en a pas, sur Podcast Addict, sur YouTube, voire même sur le forum, parce que ça bouge aussi beaucoup sur le forum, puisqu'à chaque émission, il y a un sujet qui est posté. En tout cas, j'ai remarqué ces dernières semaines qu'il y avait de plus en plus de messages sur YouTube, donc ça fait plaisir. Sur Podcast Addict, il y en a un tout petit peu. Donc, si tu veux nous spammer les messages de Podcast Addict, tu es le bienvenu. Alors, Nicolas, c'est toi qui vas ouvrir la danse et tu vas nous parler de WebAssembly.
Oui, donc ça a été une des news que j'ai le plus préparée depuis le début du podcast. Docker a annoncé le support de WebAssembly dans le moteur de Docker, donc Docker Engine, je ne sais plus comment ça s'appelle. En gros, quand vous faites un Docker container run, aujourd'hui, le modèle qui est utilisé, je crois que c'est Shim, S-H-I-M, qui va démarrer une espèce de petite VM. Donc le conteneur, tel qu'on le connaît aujourd'hui, vous avez un mini-système d'exploitation, même une mini-distribution Linux, si votre container tourne sous Linux, et vous embarquez tout un ensemble de fichiers qui sont nécessaires à faire fonctionner à Linux. Donc vous avez une distribution Linux qui vient avec. Que ça soit une Debian, une Red Hat, machin, etc., vous avez forcément un bout de distribution qui vient avec. Ben là, ce qu'ils ont fait, c'est plutôt que de lancer un binaire dans une distribution, maintenant on peut lancer directement le binaire. Et le gros intérêt de WebAssembly, pardon, c'est que c'est un moteur qui est censé être multi-plateforme, multi-système d'exploitation, et ainsi de suite. Et dans son nom, il y a Assembly, donc ils essayent d'être au plus proche du processeur. Alors, je vous rassure, on programme pas en assembleur pour faire du WebAssembly. Quoique, on peut peut-être faire ces instructions directement qui vont être interprétées par la machine virtuelle. La machine virtuelle dans le sens VM, interpréteur, dans le même sens que du Java qui va interpréter du bytecode. Là, c'est un interpréteur WebAssembly qui va interpréter le bytecode WebAssembly. J'espère que je vous ai pas trop perdu dans tout ça. Et donc le principe, c'est quand vous allez construire votre image Docker, au lieu de vous baser sur une distribution Linux, vous allez vous baser directement sur du WebAssembly. Et en gros, dans le conteneur Docker, dans l'image Docker, vous aurez juste le binaire WebAssembly qui va tourner dans votre futur conteneur qui va être démarré. Alors le gros intérêt, c'est que c'est 10 fois plus léger, puisque vous n'avez pas tous les trucs qui, entre guillemets, servent à rien. Vous avez que votre binaire. le démarrage est entre 10 fois et 500 fois plus rapide. Au démarrage, forcément, vous avez moins de fichiers à charger, et ainsi de suite. Et WebAssembly étant en théorie un petit peu plus efficace, ça va forcément démarrer un petit peu plus vite. C'est apparemment 10 fois plus rapide à l'exécution. Donc si vous avez un langage un peu plus proche de la machine, ça va forcément être un petit peu plus rapide. Et ça apporte aussi plus de sécurité puisque vous réduisez la surface d'attaque. Vous n'avez pas tous les binaires qui peuvent contenir une faille. Et vous avez aussi une portabilité accrue, pardon, puisque WebAssembly va fonctionner sur, ouvrez les guillemets, plein de systèmes d'exploitation, fermez les guillemets. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est que votre conteneur que vous avez compilé pour tourner dans WebAssembly, il va tourner sous Linux, sous Windows, mais il va aussi tourner sur des plateformes Intel, ARM et autres, puisque le WebAssembly a été prévu pour pouvoir tourner sur plein de plateformes de manière générale. Alors, par rapport aux chiffres 10 fois, 500 fois plus rapide, il faut toujours être un petit peu prudent avec ces trucs-là, parce que un truc super bien écrit dans un langage très proche de la machine va forcément être plus rapide qu'un langage qu'un programme mal écrit dans un langage interprété. Mais ça me paraît quand même assez prometteur et je pense qu'il faut surveiller ça. Alors attention, c'est quand même des choses qu'il va falloir développer en Rust. Rust, c'est un langage qui est très très bien, mais vous allez perdre en vélocité par rapport à un langage comme Python, Ruby, Go ou PHP, parce que c'est un langage un petit peu plus proche de la machine, qui est réputé pour être meilleur en termes de sécurité parce que il vous rajoute plein de vérifications, etc. Donc bref, moi je pense que c'est un futur intéressant pour les conteneurs et il y en a certains qui disent que c'est la troisième vague de la conteneurisation. La première c'était la virtualisation, la deuxième c'était les conteneurs et maintenant c'est le fait de pouvoir lancer des binaires directement. Voilà, je ne sais pas si Damir t'avait vu passer cette news, est-ce que tu en penses?
Alors, je l'avais vu passer, je ne sais même plus où, je crois que c'était sur Twitter, je n'avais pas creusé le truc. Pour l'instant, c'est un peu flou pour moi, je vais pas mentir là-dessus. J'ai un peu du mal à voir comment ça va se passer par rapport au runtime, etc. Donc, non, mais c'est intéressant de voir aussi que je pense, plus au niveau global, que Docker essaye de sortir quand même de nouvelles innovations comparé à, parce qu'aujourd'hui la concurrence, du moins moi typiquement, je prends mon exemple, hein, c'est pas une généralité, mais c'est quand même le preuve qu'aujourd'hui on n'est plus trop dépendant de Docker. Ça doit faire 3 ans que j'ai pas utilisé Docker. Moi, je passe que sur Podman et du coup dans Cube, on passe direct sur runtime. Ce qui fait qu'aujourd'hui Docker c'est plus vraiment, on va dire, quelque chose d'obligatoire. Et le fait qu'ils essaient de sortir justement des nouvelles solutions, des nouvelles technos, après avoir un peu, on va dire, lâché tout le reste, découpé et mis entre guillemets à disposition de tout le monde, ce qui est une bonne chose, hein, je critique pas ça. Y a quand même des nouveautés qui arrivent, donc c'est intéressant. Il faudra que je creuse un peu. Après, je me méfie un peu des promesses comme ça. Souvent, il y a aussi des cas qui arrangent, il y a des choses de ce type-là. Donc à voir dans les dans la réalité, qu'est-ce que ça va changer, à quel point ça va être bien ou pas bien. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui est à suivre.
Moi, je t'avoue que c'est un peu flou aussi pour moi. Je suis perplexe parce que j'ai pas bien saisi l'intérêt. Parce que pour moi, que ce soit un Docker ou un conteneur, on pouvait lancer déjà un binaire. Il suffisait qu'on dise, quand tu te lances, toi, conteneur, tu lances tel binaire. Et puis, on le mettait dedans. On pouvait déjà faire des Dockerfiles from scratch. Je sais pas, j'ai peut-être raté un truc dans ce que tu nous as expliqué, mais pour moi, à part le fait que ce soit du WebAssembly, je vois pas trop la révolution en fait. J'ai peut-être raté un truc.
En gros, ils vont avoir l'interpréteur WebAssembly qui va être lancé à la place de l'interpréteur de conteneurs. Puisque l'interpréteur de conteneur, tu vas lui donner une racine à démarrer, un root pass et un binaire à démarrer dans ce root pass. là, tu vas lui donner directement un binaire et le runtime du conteneur, ça va être directement quelque chose de WebAssembly.
D'accord. Donc, tu lances un binaire comme tu pouvais le faire avant. Alors, c'est compatible avec les autres moteurs ou c'est juste Docker qui fait ça et par exemple Podman ne pourra pas le faire. Et dans ce cas-là, est-ce que ça va introduire un problème dans les Dockerfiles qui seront plus compatibles justement?
Alors aujourd'hui, c'est une bêta qui est en preview, donc il faut vraiment aller activer des trucs. Moi, je l'ai fait cet après-midi pour tester et notamment, ils disent bien, attention, on va vous basculer sur ContenerD, je crois, qui est le seul moteur compatible. Donc, toutes vos images et tous vos anciens conteneurs qui tournaient sur votre machine vont sauter. Alors, c'est bien, ça fait du ménage sur ma machine en même temps, ça j'apprécie. Et donc, si aujourd'hui c'est disponible que dans Docker avec ContenerD, j'imagine que sur du long terme, ils vont en faire une norme. Je crois que la norme sur les conteneurs, c'est OCI pour les images. Et en fait, toutes les images OCI aujourd'hui fonctionnent sur tous les systèmes de conteneurs. Tu parlais de Podman tout à l'heure. Moi, je l'ai pas utilisé. J'utilise encore du Docker parce que je suis un papy. J'aime bien les vieux trucs qui marchent. Et pour moi, ça marche bien. Mais finalement, c'est toi de ton côté, tu utilises Podman, ça marche très bien. Et pourtant, je pense qu'on utilise à peu près les mêmes images avec à peu près la même manière de gérer les trucs. Donc, je pense que sur du long terme, Podman va utiliser aussi du WebAssembly. Et comme Docker open source, à mon avis, ils vont pouvoir s'inspirer de la manière dont ça a été fait.
Mais du coup, tu as répondu un peu à la question que je me posais. Donc, ça va être géré par le runtime. Donc, ils ne changent pas de runtime. Ça reste du coup du ContenerD avec du RunC derrière qui vont juste gérer en fait un nouveau format, une nouvelle manière de faire. Donc, au final, non, c'est intéressant.
Je pense que les autres runtime vont aussi pouvoir implémenter leur propre solution pour faire tourner du WebAssembly. Puisqu'au final, WebAssembly, c'est une espèce de machine virtuelle qui permet d'interpréter du bytecode WebAssembly. Et finalement, j'imagine que ça doit pouvoir être incorporé dans à peu près n'importe quoi sur de l'embarqué, du conteneur, puisque WebAssembly commence à être utilisé aussi quand tu veux embarquer du code dans ton application. Comme à l'époque, on embarquait un interpréteur Python, Lua, etc. A priori, il y en a qui commencent à embarquer des interpréteurs WebAssembly. Donc, ça va plus vite, c'est plus portable, il y a plus de sécurité, patati patata. Et dans les exemples qu'ils donnent, c'est une petite API développée en Rust qui va interagir avec un front en JS et tu fais Docker Compose up, tout démarre. Alors bon, il y a toute la phase de compilation du conteneur en Rust pour le compiler avec une target WebAssembly. Mais moi, je l'ai lancé. Ça sera un back-end en Java, en Python, en C, en je sais pas quoi. C'est totalement transparent. Donc, la partie réseau est parfaitement gérée, par exemple. Je vous ai séché, là.
Non, mais c'est à tester. Quand tu dis, c'est une preview. Je pense que c'est prometteur. Après, comme je disais, hein, des trucs très prometteurs comme ça, faut souvent un peu attendre que ça sorte de manière plus avancée pour voir quels sont les réels gains. Et il y a on sait dans les processus entre guillemets industriels, quand on sécurise après les choses, on ajoute des couches, etc. Des fois, ça a aussi un impact sur les perfs, notamment pour du coup la flexibilité et tout ce qui s'ensuit. Donc, à terme, je suis pressé de voir ce que ça donne, mais c'est pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça montre que le monde du conteneur, en particulier Docker Inc., continue de faire des choses et d'innover. Et ça, c'est une bonne chose. Ça montre un vrai dynamisme.
Bah oui, surtout qu'en plus, c'est quand même assez récent. Moi, j'attendais que le gros avion qui faisait plein de bruit passe, parce que sinon, j'allais pourrir la piste audio du podcast. En tout cas, merci pour cette information.
Et l'autre bonne nouvelle qui va faire plaisir, l'autre bonne nouvelle qui va faire plaisir à René, c'est qu'il y a de plus en plus de Rust.
Tout à fait, mais n'invoquons pas Rust et René sur ce podcast où il n'est pas là, sinon il risquerait de débarquer à la proviste, sait-on jamais. Donc, tu l'auras compris, toi, cher compagnon, que les conteneurs bougent encore, et en tout cas, Docker n'est pas mort, et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est peut-être la meilleure nouvelle de ta news pour moi. Si tu nous écoutes et que tu aimes ce podcast et que tu veux t'assurer de sa pérennité, tu veux qu'il continue encore longtemps parce que tu l'apprécies fortement, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir si tu peux et si tu en as envie avec un don. Et tu as toutes les informations sur le site internet qui s'appelle soutenir.compagnon-devops.fr. Tu trouveras aussi le lien en description. Et Thomas, tu vas nous parler de cloud.
Oui, mon petit sujet préféré. Je vais vous parler de cloud, je vais vous parler d'argent, un sujet assez classique et qui fait toujours beaucoup parler, de cloud public, je précise. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une étude qui a été faite par Veritas, qui s'appelle Securing Your Enterprise in a Multi-Cloud Environment, a été publiée et elle se révèle très intéressante. Donc du coup, elle parle notamment en très grande majorité des coûts du cloud et du multi-cloud. Et il y a un petit article qui est sorti du coup sur developer.com qui nous fait un petit résumé en français. J'ai pas, pour info, j'ai plus toute l'étude en tête, donc je prends des pincettes sur les chiffres et je vais vous donner des approximations. Mais en tout cas, c'est pour avoir le fond de l'étude. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà la majorité des entreprises, comme c'était entre guillemets beaucoup dit, dépassent leur budget par rapport à ce qui était prévu quand ils vont dans le cloud public. Ce qui est pas forcément surprenant vu qu'on en entend beaucoup parler. Ce qui est plus intéressant, c'est que dans cette même proportion d'entreprises, 99% ou 98%, donc un pourcentage très haut, avouent qu'ils ont eu beaucoup de mal à comprendre le modèle du cloud et qu'au final, en fait, ce dépassement, il est aussi beaucoup lié au fait qu'il n'est pas compris que les services du coup de cloud n'étaient pas responsables de certaines parties et qu'ils restaient responsables de leur côté, notamment en ce qui concerne la sécurisation de la data, les backups dans d'autres parties, etc. Donc là-dessus, c'est quand même un point qui est déjà assez intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on entend souvent, le problème n'est pas tant la facturation à la demande ou la facturation de choses qui sont très difficiles à calculer pour les entreprises, mais simplement une mauvaise compréhension du modèle. Et pour moi, là, on pointe vraiment un point en fait de mauvaise compréhension qui est super intéressant. À part ça, l'étude donne aussi des perspectives d'avenir qui sont assez intéressantes. Malgré ça, les entreprises sont quand même conscientes que le cloud a beaucoup à apporter. Donc, globalement, pas tant pour faire moins cher que pour faire plus avec la même chose, voire même moins. Typiquement, en se reposant sur des services managés, en se reposant sur des choses comme ça, où ils vont avoir, on va dire, un niveau de départ qui va être beaucoup plus élevé que s'ils devaient tout redévelopper eux-mêmes. Et que le chiffre d'affaires global du cloud continue d'augmenter. Alors, au-delà de cette étude, moi, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse, que j'ai connu l'époque, on va dire, on ne parlait pas de cloud, on parlait de serveurs dédiés, on parlait de choses comme ça, de data center, de housing, en majorité. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, et qui n'est pas abordé dans cette étude, et que je vois assez peu souvent, c'est, j'aimerais bien une vraie étude à part d'entreprise sur combien ça revient d'avoir un cloud, en fait, interne, au moins une salle dans un data center dédié, voire deux pour avoir de la redondance. Combien ça coûte exactement? La plupart du temps, c'est pas calculé ou les estimations sont elles aussi très vagues. Et je pense qu'en réalité, le cloud, il a permis surtout de faire quelque chose, c'est de mettre un prix simple et total sur les consommations d'infrastructures et des équipes. Ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, globalement, les entreprises payaient un service interne ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas en fait, beaucoup de valeurs ajoutées qui n'étaient pas calculées en fait dans ce prix. Et c'est très rare qu'on arrive à accumuler toutes les choses. Je prends un exemple très simple. Quand vous devez calculer du coup combien ça revient à votre data center, faut penser aux machines, ça on est d'accord, faut les amortir sur un certain nombre d'années. Ça va aussi demander du travail à la comptabilité parce qu'il y a une gestion du coup de tous les assets, etc. Faut compter aussi la partie du coup climatisation, faut compter la partie location ou data center s'il est à vous, bah, il va falloir compter le coût du bâtiment, son amortissement, etc. Donc ça fait quand même beaucoup de choses qui sont aussi à prendre en compte et qui, à mon sens, rendre le calcul quasi impossible aujourd'hui. Donc, je trouve ça plutôt plutôt cool. Peut-être que ça montre que côté opérationnel, côté data center et même côté cloud, il y a quand même de la valeur quelque part et il y a de la valeur qu'on apporte et qu'on ajoute à tout ça. Et si vous voulez, bah, je mettrai en lien. J'en avais parlé un peu de justement cette comparaison de prix dans un article il y a quelques temps. Mais je pense que c'est effectivement un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a à retenir, c'est que il y a encore beaucoup de démarches pédagogiques à faire pour expliquer le modèle du cloud et que la plupart du temps, c'est pas parce que vous avez un service cloud que vous n'avez plus rien à faire et plus rien à gérer. Et la deuxième chose, c'est que bah, le marché du cloud, il n'est pas encore atteint son stade final. Il y a encore beaucoup de choses à faire, encore des choses qui vont venir, qui vont évoluer. Et donc ça, bah, c'est plutôt cool pour notre domaine, je pense. Et toi, du coup, Christophe, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Eh ben, je pense que tu as dit beaucoup de choses. Si j'ajouterais en plus dans les dépenses, je pense que tu ne l'as pas dit, mais il y a les gens qui exploitent les data centers et les gens qui utilisent, par exemple, les data centers et les solutions qu'on met à disposition. Typiquement, moi, quand je travaillais à la caisse primaire d'assurance maladie, nous, on avait un service, justement, on était un service d'Ops et on exploitait donc du VMware et on mettait à disposition du VMware de tous les exploitants, et donc notre salaire devait rentrer aussi dans la gestion du cloud. Moi, ça ne m'étonne pas, en fait, que les entreprises, la plupart en tout cas, ne respectent pas leur budget, parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'elles ratent justement cette partie-là de aller dans le cloud, ça a un coût, et justement, ce coût-là, on ne l'avait peut-être pas bien quantifié avant. Et soit on était resté sur le coût des machines et on n'avait pas compté les gens, alors que quand on va dans le cloud, on sait très bien, et on l'a expliqué plusieurs fois, que y a tous les services managés, le coût des services managés prend en compte, en effet, le coût des machines, le coût des flux, mais aussi le coût des logiciels et du développement des logiciels qui servent à manager ces services, et puis même les gens du cloud provider qui servent à tout ça. Bon, je vais m'arrêter un petit peu pour... vas-y.
J'ai pas dit les salaires parce que j'essayais de prendre justement les petites sommes qu'on oublie. Et généralement, en général, on pense au salaire, voire à l'amortissement des machines, mais c'est vrai que c'est plus tout ce qui est à côté qu'on oublie.
C'est vrai, mais je sais pas si les entreprises, en tout cas, je sais pas si toutes les entreprises répartissent leur masse salariale justement de cette partie-là. Typiquement, moi, quand je travaillais à la caisse primaire d'assurance maladie, je ne savais pas si le coût de ma prestation, puis j'étais prestataire, était réparti plutôt côté service ou plutôt côté fournisseur data center. Tu vois, c'est des questions comme ça, je ne sais pas trop. Et toi, Nicolas, t'en penses quoi?
Ouais, je suis extrêmement surpris que les gens trouvent le cloud cher. Bien sûr, c'est ironique ce que je dis. Oui, effectivement, c'est toujours, ça me fait toujours rire les gens qui découvrent que la facture cloud va être plus chère. Si vous voulez faire des économies, prenez un serveur dédié, ça sera moins cher. Hein. Par contre, vous aurez moins de flexibilité, vous pourrez pas déployer votre application en 5 minutes et ainsi de suite. Et le jour où votre serveur va cramer, il sera plus là. C'est la VM, quand elle crame, on peut la redémarrer instantanément ailleurs, voire elle est migrée automatiquement ailleurs. Effectivement, ce que tu disais, Damien, c'est les coûts d'un data center, c'est quoi vraiment? Mais en fait, en réalité, personne n'a les moyens. Enfin, je connais pas beaucoup de boîtes qui ont les moyens de se monter son propre data center. Et même des grosses boîtes comme Orange commencent à en faire de moins en moins parce que ils sont plus suffisamment compétitifs par rapport à des acteurs comme OVH, AWS, pour citer un acteur de chaque côté de l'Atlantique. Parce que aujourd'hui, ce qu'on demande à un data center, c'est d'avoir plusieurs arrivées électriques, d'avoir une redondance d'énergie. Donc, une redondance d'énergie, c'est quoi? C'est des batteries avec un onduleur et un générateur au fioul ou je sais pas quoi pour gérer tout ça. Une climatisation ou du refroidissement liquide, parce que finalement, ça, c'est en train d'arriver. Et d'ailleurs, c'est un changement assez intéressant au passage. Et en fait, c'est un coût tellement énorme que on peut pas rivaliser avec un hébergeur dont c'est le vrai métier. Et moi, je me souviens d'être passé dans plein de boîtes. Ils étaient super contents de leur data center. Le data center, c'était une salle derrière une baie vitrée avec une pauvre climatisation où quand elle lâchait, tout le monde serrait les fesses, ouvrait les fenêtres et brassait de l'air pour refroidir les serveurs au maximum parce que tu avais toute la compta, le CRM, le RP, etc. de la boîte qui tournait là-dedans. À un moment donné, ça devient inconscient d'héberger toute sa boîte dans une salle blanche gérée par soi-même. Et je pense qu'il faut externaliser tout ça dans des endroits, dans des boîtes dont c'est le métier, quoi. Et un autre truc, c'est si vous confiez ça à une boîte comme AWS, OVH, eux, ils ont les moyens de réduire les coûts. Donc, même si ça vous paraît cher, parce que finalement, vous achetez votre serveur Dell, un onduleur et puis un truc, ça vous coûte moins cher, oui. Mais en réalité, il y a énormément de trucs qui sont derrière. Un data center, il y a des lecteurs d'empreintes digitales, machin, etc. Ils vous pèsent quand vous rentrez, quand vous ressortez. Vous pouvez pas ressortir avec un disque dur sans que le data center soit au courant. Vous, la femme de ménage, elle va rentrer, elle va débrancher une prise pour brancher son aspirateur et puis elle va ressortir avec potentiellement un disque dur si elle a été soudoyée par la bonne personne. Donc, il y a plein de trucs dont on mesure pas les implications. Je pense que oui, ça coûte cher, mais c'est pas pour rien. Après, j'imagine qu'ils ont découvert une facture beaucoup plus élevée que ce qu'ils avaient. Parce que c'est probablement hébergé sur AWS où vous payez le moindre électron, le moindre photon qui traverse une fibre ou qui est chargé d'un disque dur. Parce que chez AWS, vous payez tout. Il y a un octet qui bouge d'une machine à une autre, vous le payez. Et s'il va sur une machine qui est dans un autre data center de l'autre côté de la rue, l'octet est plus cher. Et s'il change de région, il est encore plus cher. Mais c'est bien parce que ça crée des métiers comme du FinOps où finalement on apprend à déployer une infrastructure de manière correcte et on fait transiter les flux réseau que quand c'est strictement nécessaire. Donc c'est bien parce qu'en plus ça va faire un côté green.
Du coup, si. Oui. Ouais, tu veux rajouter un truc?
Non, vas-y.
Non, si je peux rebondir pour préciser. Alors, on dit, c'est vrai qu'AWS c'est un modèle de facturation qui est assez, qui peut aller très vite si on fait pas attention. Mais le principal problème, en fait, comme je disais, qui est relevé dans l'étude, c'est que les entreprises ne comprennent pas trop le modèle au niveau notamment de la gestion des données. Et en fait, elles se sont retrouvées alors, notamment des surcoûts au niveau de tout ce qui est PRA, etc. À se dire, ah, ben il faut qu'on prévoie un stockage externe. On pensait que c'était eux qui géraient. Faut qu'on prévoie aussi des gens pour architecturer les choses d'une certaine manière. Donc c'est beaucoup ces choses-là au final qui ont montré des gros dépassements. Après, si je peux juste préciser ce que je disais quand je parlais de data center, j'exagérais un peu. Je fonçais volontairement le trait. C'est vrai que ça fait longtemps que la plupart des boîtes ne font plus de data center. Mais ce que je voyais encore souvent, c'était des locations de baies ou des choses comme ça dans des data centers un peu plus classiques chez Online ou autre. Et du coup, même cette partie-là, en fait, aujourd'hui, le cloud, on en parle souvent et on le sait. La vraie valeur ajoutée, c'est le soft. Et pour le coup, c'est quelque chose aussi sur lequel aujourd'hui on est plus exigeant et le cloud nous permet aussi d'avoir à disposition des choses qu'on n'avait pas avant. C'est une économie de l'accès. C'est qu'avant, vous étiez une petite entreprise de 15 personnes, vous faisiez un produit SaaS. Vous alliez avoir potentiellement 5 dédiés chez OVH pour avoir dessus vos machines qui tournent. Peut-être même sans cluster, etc. Vraiment quelque chose qui juste marche. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'on demande. Aujourd'hui, on va vouloir de la sécurité avec de l'IAM, du chiffrement à trust. On va vouloir potentiellement du scaling. On va vouloir des API pour interconnecter tout. Et en fait, toute cette couche software, c'est aussi quelque chose qu'avant, on ne calculait pas parce que c'est les équipes qui subissaient un peu, qui devaient un peu se débattre, etc. Et je pense que c'est des vrais coûts cachés qu'on a sous-estimés pendant des années et qu'aujourd'hui, on se rend pas compte qu'on a beaucoup plus pour, au final, un peu plus d'argent, mais on a tellement plus qu'on s'en rend même plus compte. Et on pourrait parler notamment des produits qui sortent comme l'IAM chez des fournisseurs alternatifs. Vous allez voir, ça aura un lien. Et pour le coup, ces choses-là, c'est des choses qui en interne sont les trois quarts du temps qui étaient même pas imaginables, à part si vous êtes une grande banque ou un gros organisme. Et ça, je pense qu'il faut pas qu'on l'oublie aussi.
Moi, je rajouterais un truc, c'est que le cloud arrive et ça fait bien 15 ans maintenant que le cloud est arrivé, peut-être 20 ans que ça a démarré, je crois. Mais le cloud arrive avec tout un écosystème, et du coup, notre exigence pour mettre en place un service est plus haute qu'avant, et du coup, forcément, c'est plus cher, parce qu'on fait plus de choses, comme tu l'as dit. Donc, le cloud arrive, on va dans le cloud, mais du coup, on a plus de services, on veut plus de choses, et donc ça coûte forcément plus cher à un moment donné, puisque un petit dédié versus tout un tas de services managés ou de dispo, c'est pas le même prix.
Après, il ne faut pas oublier un truc, et de ce côté-là, l'informatique n'a pas beaucoup changé. C'est de quelles ressources j'ai besoin pour mon application. C'est aucun développeur sait répondre à ça, aucun intégrateur sait répondre à ça. Et à l'époque, je me souviens, c'est les développeurs nous faisaient acheter des machines surdimensionnées par rapport à l'application. Et je me suis retrouvé avec des machines qui avaient un load overage de 0, quelque chose, tellement la machine faisait rien, même quand il y avait des utilisateurs connectés dessus, quoi. Alors l'avantage du cloud, ça va justement être ça, c'est que si vous avez mis trop de ressources, vous pourrez le réduire. Et c'est là où il faut avoir une méthode en tête, c'est que pendant les premiers mois d'utilisation de votre application, vous ne saurez pas exactement combien ça va vous coûter, surtout sur des providers comme AWS qui facturent énormément de choses. Donc, il faut avoir en tête que surévaluer la consommation de votre application, et quand ça aura tourné pendant quelques mois, vous saurez combien ça coûte, et vous allez regarder quels sont les postes qui coûtent le plus, et vous pourrez regarder si vous avez besoin de les optimiser ou pas. Parce que si la consommation réseau, c'est 100 € à l'année, ça vaut pas le coup d'essayer d'optimiser ça, et ainsi de suite. Et ça commence à être du FinOps, et c'est très intéressant de pouvoir jouer là-dessus.
Je rajoute un petit point là-dessus tant qu'on y est. Le FinOps, c'est pas forcément, on pense beaucoup à l'optimisation des coûts, etc. Mais des fois, j'ai envie de dire, souvent, on y pense un peu trop tard. Le FinOps, c'est aussi le suivi des coûts. Donc je pense que quand vous allez aujourd'hui sur le cloud, ça peut être intéressant dès le début d'avoir un dashboard Grafana ou autre qui vous montre l'évolution des coûts et de le suivre, pas forcément tout le temps, mais régulièrement, se dire, je sais pas, en weekly ou en mensuel, on regarde un peu où ça en est, on regarde s'il y a une explosion de la facture, s'il y a une explosion de la facture, il y a peut-être un autre souci. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose, c'est plus une philosophie à avoir vraiment, je pense, dès le début.
Et à regarder dans le détail, parce que si on a 10% de plus de clients, potentiellement la facture peut avoir une progression différente, et il y a certaines choses que vous pourrez pas économiser, parce que le trafic réseau, ça peut être progressif, mais si vous rajoutez une VM, bah ça fait boom d'un seul coup, et puis voilà, quoi.
Donc oui, c'est typiquement, c'est pour ça que je disais un dashboard, vous pouvez pas mettre, il faut pas voir uniquement la progression du coût, vous pouvez mettre le coût aussi en fonction des services et avoir un graphe qui vous dira, vous verrez les différents services et s'il y a une explosion, vous verrez le service qui a explosé et vous pourrez voir si c'est lié à un trafic potentiellement pas. Après, vous pouvez même le rapprocher de KPI métier comme le nombre de visites mensuelles, etc. Mais là, on rentre dans les choses déjà un peu plus poussées. Je pense rien qu'un dashboard avec l'évolution du prix, voir l'évolution du prix par service avec le top 3, ça permet d'avoir une bonne visibilité.
Ce qu'on fait chez CGWire, c'est que on suit tous les mois la facture OVH et divisée par le nombre de clients pour voir combien ça nous coûte une infrastructure par rapport au nombre de clients. Alors bah des fois on a une surprise, hein, le coût fait x2 parce que on a dépassé une certaine volumétrie, on a rajouté des services, des VM et ainsi de suite. Et il y a certaines fois, bah, tu en rajoutes tellement que ça fait grimper ta facture de beaucoup d'un seul coup.
Alors du coup, ça me fait penser, je vais renvoyer notre auditeur sur le Radio DevOps, sur la supervision qu'on avait fait, pour avoir tout un tas d'infos sur la supervision. Et du coup, vous me donnez des idées, merci. Je vais en parler à Arthur, parce que Arthur est en train de mettre en place une supervision, enfin de remettre en place une supervision chez nous, et je vais lui demander de stater nos dépenses cloud, s'il peut en tout cas. Moi, j'ai un dernier conseil à donner aux personnes qui vont dans le cloud, c'est faites attention à ce que vous mettez en place. C'est pas parce que le cloud vous permet de faire tout et n'importe quoi qu'il faut absolument avoir une qualité de service énorme. Commencez petit et puis augmenter petit à petit. Pensez amélioration continue. Hein. C'est pas la peine de faire de la haute dispo tout de suite. De toute façon, si vous êtes petit, vous avez peut-être pas une équipe prévue pour faire des astreintes, etc., etc. Donc, commencez petit et apprenez petit à petit les briques que vous utilisez et puis vous allez pouvoir faire évoluer votre infrastructure. De toute façon, le cloud est assez souple pour ça. Et on va passer au sujet suivant.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Alors, c'est tout chaud. IAM arrive chez Scaleway. Chez Scaleway et pour tout le monde, puisque c'est plus en bêta. C'est donc un pas de plus vers les attendus d'un cloud conforme à l'état de l'art. Du coup, l'Identity and Access Management, c'est une des briques de base de l'infrastructure as a service. Et c'est la plupart du temps demandé par les administrateurs et les administratrices cloud. Je me rappelle d'ailleurs que lorsqu'on a visité le data center Scaleway en mars 2020 avec Damir et Erwan, c'était déjà une de nos questions. Si tu n'as pas écouté cet épisode de podcast, le lien est en description. Et si tu es sur YouTube, une fiche info va apparaître en haut à droite. Mais du coup, c'est quoi au juste? Eh bien, l'IAM, il te permet de gérer l'accès à l'infrastructure cloud de manière simple et précise. Bon, ça c'est ce que nous promet Scaleway. Mais, Christophe, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Alors, plein de choses, comme définir précisément qui a accès à quelles ressources, donner un accès restreint à notre organisation Scaleway, par exemple, puisqu'il y a des organisations dans Scaleway, à un tiers de confiance, comme par exemple un prestataire, une agence, whatever, ou attribuer des clés API aux applications. Clés API qui pourront évidemment s'adresser à certaines ressources. On peut aussi gérer les autorisations de plusieurs utilisateurs simultanément via les groupes ou les policies. Et l'IAM de chez Scaleway est complètement gratuit et compatible a priori avec tous les produits Scaleway Elements, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. La modification de l'IAM peut se faire soit via l'interface utilisateur, soit via Terraform ou encore avec l'interface en ligne de commande de chez Scaleway. Alors là je me tourne vers Damir parce que je sais que tu attendais avec impatience cette fonctionnalité comme moi. Est-ce que tu as déjà testé l'IAM de chez Scaleway? Est-ce que tu as joué avec?
C'est prévu que je pousse un peu. Pour l'instant, j'ai fait juste un petit tour du propriétaire. C'est vrai qu'on l'attend depuis longtemps et je sais que de leur côté, c'est en développement depuis longtemps et je sais que c'est en développement depuis longtemps chez d'autres fournisseurs et que c'est une partie très compliquée à mettre en place qui demande beaucoup de travail. Donc déjà, bravo à eux pour le travail qui a été fait. C'est quand même pas négligeable. Pour ce qui est du coup de l'IAM, de ce que j'ai vu, c'est une bonne base. Ouais, la gestion du coup des policiers, etc., des groupes, l'invitation, gestion des externes, des clés d'application, c'est quelque chose qui est quand même une bonne base et un bon départ. Et clairement, ça va nous changer la vie au niveau de la gestion des tokens, des accès, des choses comme ça. Faut que je teste, notamment, j'ai pas encore testé avec le provider Terraform. Mais pour le coup, c'est clairement un gros plus. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un peu tout le temps pareil avec Scaleway. Je reste sur ma faim. C'est vrai que quand on dit IAM, on pense gestion des utilisateurs à des droits. C'est une partie qui est la partie la plus importante peut-être. Mais moi, il y a des choses qui manquent. C'est vraiment, il y a encore des choses qui manquent. Je veux dire, il y a la partie gestion des accès d'automatisme en général. Typiquement, je sais qu'ils ont des... je sais pas, ça se trouve, c'est possible, et j'ai loupé. Hein, mais de pouvoir dire, j'attache des droits à un conteneur qui est exécuté dans leur offre SaaS. Du coup, et ce conteneur-là va pouvoir se connecter sur S3, etc., sans que j'ai à donner de token. Des choses comme ça, c'est quand même aujourd'hui super intéressant et ça décharge une grosse problématique de gestion de clés et de rotation de clés. Pareil, pour pouvoir attacher des clés, des droits à une instance, j'ai peut-être pas trouvé, mais à ma connaissance, c'est pas encore possible. Mais pour le coup, j'espère qu'avec une base comme ça, assez rapidement, on va pouvoir avoir du coup toutes ces fonctionnalités qui vont s'ajouter. Après, je sais que j'ai eu un peu le même espoir avec les VPC, et ça met quand même beaucoup plus de temps que ce que j'espérais. Donc, j'essaye de pas trop me hyper pour ces choses-là. Mais globalement, oui, c'est une très bonne chose. Pour résumer, très bonne base, vraiment une gestion des droits beaucoup plus fine et ça fait du bien. Mais pour moi, il manque encore toute la partie non humaine qui va peut-être pas assez loin avec la gestion. On peut attacher directement des droits à des objets cloud, entre guillemets, et pas générer des tokens et les passer. Et une dernière partie, et ça c'est important notamment pour tout ce qui est ISO, etc., et de la terme de sécurité, de pas pouvoir exporter des logs. Ça c'est un des trucs qui me fatigue honnêtement. Là-dessus, je suis habitué à AWS et à d'autres où c'est assez bien foutu. C'est quand on a un compte quelque part, on peut lui dire tous les appels API qui sont faits sur ce compte, je veux que tu me logues tout avec CloudTrail chez AWS, et tu peux externaliser ces logs dans un compte à part, même dans un cloud à part, et les fermer pour que personne n'y ait accès. En cas d'attaque, tu puisses remonter tout. Et ces choses-là, c'est quand même un gros point très important. Et au-delà de ça, pour les certifications, c'est souvent exigé. Et du coup, je ne sais pas si tu saurais répondre à ma question pour attacher des droits à des objets cloud, parce que je n'ai pas testé en profondeur. Toi, tu as peut-être plus testé que moi.
Non, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que je ne suis pas un très gros utilisateur d'IAM, parce que ça fait longtemps que je suis parti d'Amazon Web Services. Mais c'est vrai que même pour mes propres besoins, ce qu'il y avait était vraiment limité, puisque je ne pouvais pas séparer les projets. Enfin, plutôt avant qu'il y ait les accès aux projets, qui était une évolution, la première évolution, finalement tu crées une clé d'API qui accédait à tout et après les projets tu crées une clé d'API qui avait accès à tout dans ton projet. Là au moins on va pouvoir dire voilà tel bucket, je crée une clé pour tel bucket, tel objet, etc. Ce que tu veux toi, c'est carrément l'automatisation et le fait de dire quand je crée tel type de ressources, il aura accès à tel type de ressources et de manière automatique sans que tu aies à créer de tokens, et je vois bien pourquoi tu en as besoin. J'espère en tout cas que ça va arriver. Tu parlais de logs, c'est vrai qu'il n'y a pas de service de centralisation des logs chez Scaleway, mais il y a une bêta en cours qui vient d'arriver, qui est le Scaleway Observability, et comme c'est un Grafana avec un Loki, j'ai de l'espoir pour que ça arrive un jour en tout cas.
Alors, j'avais regardé, pour l'instant, ça y était pas dans l'observabilité. J'avais regardé justement, parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais ça peut paraître con, mais moi, typiquement, j'ai déjà eu le cas sur une infrastructure cloud. On avait du coup un environnement qui était un environnement d'intégration, mais qui était simili-prod, et sur lequel on avait des formations qui étaient faites et juste comme ça. Il y a eu un truc, une formation, globalement, une infra de formation qui a été supprimée. On n'arrivait pas à identifier d'où ça vient. On a été voir dans l'export. On a regardé la clé qui nous concernait. On a directement trouvé comment ça a été supprimé et pourquoi. C'est quelque chose qui, au quotidien, est quand même important. Et je parle même pas en cas d'attaque réellement, où là, c'est juste vital. Je crois d'ailleurs que l'ISO 27001 le demande pour le coup.
Oui, c'est même obligatoire.
Ouais, alors après... Moi, j'ai pas ces besoins-là, donc je fais partie de la population qui peut se contenter de ce qu'on a chez Scaleway. Et en fonction des besoins, en effet, plus t'as des besoins et plus ton équipe est grande aussi, parce que nous on est tout petit, et plus tu vas pouvoir avoir des besoins qui sont non couverts. Ça, je comprends parfaitement, et j'espère que ça va évoluer, parce qu'en tout cas, Scaleway bouge beaucoup et ils sont en pleine croissance. Justement, Nicolas, t'en penses quoi, toi?
Encore une fois, Scaleway envoie un très bon signal sur l'évolution du cloud en France. C'est pas la première nouvelle qui arrive où ils sortent des fonctionnalités intéressantes. Alors effectivement, comme le dit Damir, il manque des trucs. Mais ben, c'est pas grave, c'est une première version. Et d'ailleurs, faites ça avec vos produits, sortez une première version. Si elle n'est pas parfaite, Daniel râlera, mais c'est pas grave, vous ferez une deuxième version avec plus que de trucs. Et bon, bah effectivement, il manque l'auditabilité. Bon, bah c'est dommage, mais j'imagine que ça doit pas être très compliqué à faire parce que finalement, il suffit de loguer toutes les requêtes. Par contre, très important, loguer ça dans un truc non répudiable parce que ça, c'est un des trucs super importants. C'est tous ces logs-là ne doivent pas être modifiés, supprimés parce que bah, c'est tout l'intérêt de loguer, c'est de savoir qui a fait quoi, quand, de où et ainsi de suite parce que c'est ce qui va servir à retracer une attaque sur du long terme. Et ensuite, bah, effectivement, il y a d'autres acteurs qui travaillent dessus. Je crois que j'en avais parlé lors d'un autre épisode. OVH est en train de travailler sur son IAM. Et leur projet, c'est de le sortir en open source. Donc, c'est un petit peu plus ambitieux et je trouve que ça sera super intéressant. Alors, vous emballez pas trop, hein, parce que si c'est open source, c'est pas avec votre startup où vous êtes quatre comme dans la mienne. Vous n'allez pas déployer un IAM comme celui d'OVH parce que vous en aurez jamais le besoin. Et s'ils développent le leur, c'est que tous les autres du marché en open source ne tiennent pas la charge avec le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Donc, c'est encore une fois, c'est des nouvelles qui sont très intéressantes parce que le marché du cloud bouge en France pour se rapprocher des prérequis dont on a besoin pour pouvoir déployer sur des infrastructures cloud et sérieusement.
Juste un petit point, je veux pas paraître rabat-joie, hein, parce que les points que je disais, c'est pour moi, il y a vraiment trois parties dans l'IAM, mais il y en a une sur trois qui est déjà très bien. Maintenant, je suis quand même curieux d'attendre le reste. Bah, juste pour ajouter un dernier point là-dessus, quand on dit quand une petite équipe n'en a pas besoin, j'avoue que je suis moyennement d'accord, dans le sens où c'est... Qui c'est, tu me fais le nom de la doc.
C'est pas ce que j'ai dit. C'est si vous êtes une petite équipe, vous n'avez pas de besoin de déployer votre propre IAM. Oui. Okay. C'est si vous êtes une petite équipe, redéveloppez pas un WS de votre côté. C'est utiliser un provider cloud qui a ces fonctionnalités-là.
On est tout à fait d'accord. Mais ça rejoint la news que je disais tout à l'heure. Typiquement, c'est des produits qui sont très coûteux à développer et à maintenir. Et là, vous les avez sur étagère, ça vous coûte rien. Et vous avez un gros gain quand même en termes de sécurité, mine de rien. Et ça, il ne faut pas oublier de le calculer non plus quand on calcule les coûts du cloud.
Sinon, vous faites comme moi, les développeurs n'ont pas d'accès au SSH sur les machines et il n'y a pas de problème de sécurité.
On en reparlera SSH, de ça.
En 2022, SSH.
Oui, ça sert, Damir, ça sert. En 2022.
Pour faire un service système CTL Restart Docker.
Ben, ce sont des choses qui arrivent. Et il y a encore beaucoup de personnes qui le font.
Je troll à moitié, bien sûr. Moi aussi. Je précise, visiblement, c'était pas si évident.
Bon, eh ben, si tu veux troller, tu peux utiliser nos podcasts et nos vidéos, puisque ils sont CC by SA. Donc, tu peux prendre des petits bouts et puis faire des trolls avec. Il suffit juste que tu nous dises que tu les utilises. Et puis, évidemment, tu peux partager le podcast, parce que je te rappelle qu'un podcast, ce n'est pas forcément facile à faire découvrir. Donc, si tu l'apprécies, envoie-le à tes collègues par mail sur le Slack de ton entreprise ou mieux sur le Mattermost de ton entreprise. Mieux pour moi, en tout cas pour mon petit cœur de libriste. Et nous allons passer justement aux outils. Et je vais commencer. Je vais commencer puisque je vais te parler d'un outil que j'ai découvert cette semaine et que j'ai mis en place cette semaine pour faire la page de soutien justement des compagnons. C'est Linktree Free Clone, qui est un clone, comme son nom l'indique, de Linktree, qui est libre et statique, puisque c'est fait avec Astro. Et c'est notre cher ami Johan Dev, que je salue, qui l'a fait. Donc tu peux l'utiliser, c'est assez simple. Je t'avoue que j'ai mis 2 heures à faire la page pour la mettre en place, puis même pour la modifier. Donc c'est plutôt facile à mettre en place. Et puis, comme c'est du statique, tu peux l'héberger un peu n'importe où, sur Vercel, sur GitLab Page, etc., etc., etc. Est-ce que c'est des trucs que vous utilisez, vous, les Linktree ou les trucs comme ça?
Oui, et justement, je vais mettre à jour le mien avec ça.
Pour le coup, je n'utilise pas. Moi, en général, sur mon blog, il y a tous les liens nécessaires, donc je n'ai pas forcément l'utilité, même si je trouve ça intéressant. Je n'ai pas encore craqué.
Mais où est-ce que tu mets le lien vers ton blog ?
Je le mets sur mes réseaux sociaux. Comme ça, ça oui. fait de l'auto-discovery.
Oui, c'est vrai, quand on n'a qu'un seul média, c'est beaucoup plus simple. Quand on en a plein comme moi, c'est bien d'avoir Linktree. Mais moi, je l'ai juste utilisé pour faire une page de soutien rapide pour mettre les liens. Si jamais un jour, je mets autre chose que LiberaPay, bah, je mettrai des petits liens à cocher. Ça me fait une petite page. Nicolas, tu vas nous parler d'un autre outil.
Eh bien, justement, mon futur Linktree, il est versionné dans Git et des fois, je me perds un petit peu dans toutes mes branches. Plus sérieusement, c'est quand on collabore en entreprise, des fois, on se retrouve avec des branches dans Git, c'est un petit peu l'enfer. Et moi, j'utilise depuis très longtemps des clients graphiques pour m'y retrouver un petit peu visuellement. Alors, je fais tout en ligne de commande pour tout ce qui est commit, rebase, etc. Mais pour naviguer dans l'historique, je trouve que c'est toujours plus pratique d'avoir un petit client. Et alors, moi, je suis sur Mac, donc j'utilise toujours des logiciels propriétaires et payants. Et j'en ai découvert un, alors c'est il y a longtemps, au tout début, il était peut-être même gratuit à l'époque, il s'appelle Fork. Donc vous aurez le lien dans les notes de l'épisode, gitfork.com. Alors il n'est pas gratuit, il est bien payant, il fonctionne sur toutes les plateformes propriétaires, donc sur Mac et sur Windows. Mais tout rôle mis à part, moi je l'utilise tous les jours parce que c'est un outil qui est vraiment super bien foutu pour naviguer dans Git, l'historique et ainsi de suite. Et l'open source, je suis un grand fan, mais quand j'ai pas d'équivalent open source, bah, des fois j'aime bien payer un truc qui me fait gagner du temps.
Je peux comprendre. Alors moi, j'utilise VS Codeium pour développer depuis pas mal de temps et j'ai installé une extension qui s'appelle GitGraph qui fait approximativement la même chose.
Moi, j'utilise rarement. J'ai eu peut-être une fois besoin d'un client graphique pour voir un truc un peu what the fuck. Mais autrement, un Gitlog avec un alias et des très bonnes options me donne un graph assez basique mais suffisant. Et pour le reste, j'ajouterai un petit mot pour dire que même si vous prenez pas des outils propriétaires, n'hésitez pas à donner aussi, même si c'est open source typiquement, bah, j'utilise NeoVim, je donne une certaine somme tous les mois pour soutenir un peu le développement. C'est important aussi et on n'y pense pas forcément.
Oui, c'est d'ailleurs j'aimerais bien faire une émission justement sur le financement du libre. Mais bon, par manque de temps pour l'instant, j'arrive pas à la lancer. Alors, je vais vous parler d'un autre outil qui s'appelle Mountcable. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est une sorte de collection, enfin non, c'est pas une sorte, c'est une collection en cible qui permet de faciliter les tests de playbook. Plutôt que de vous parler de l'outil directement, je vous renvoie à un article de blog de Stéphane Robert qui fait partie des compagnons du DevOps justement. Et d'après ce que j'ai vu, ça permet de décrire dans un langage proche d'un langage de test, en fait, d'un outil de test pour faire ces tests justement de playbook. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va venir parce que ça a l'air assez intéressant. Avec quoi vous testez vos playbooks ou vos rôles? Je pense que vous utilisez vos molécules, mais est-ce que vous aviez des solutions pour tester vos playbooks justement?
Pour l'instant, non. C'est dans la to-do. Pour l'instant, on est encore en train de prévoir de migrer tout ce qu'on a sur Ansible. Mais pour le coup, oui, ce sera dans les choses à designer. Et c'est un gros travail. On a tendance à négliger, mais il est important quand même. Quand on commence à avoir beaucoup de code.
J'utilise la même méthode que Damir.
C'est aussi, à votre décharge, il n'y avait pas trop d'outils pour tester les playbooks. Il y avait Molécule qui permettait de faire des tests de rôle, mais ce n'était pas très adapté aux playbooks. Et là, justement, cet outil-là va nous permettre d'aller plus loin. C'est vrai qu'en cible n'est pas bien outillé, je trouve, pour les tests. Alors après, il y a Ansible qui peut lui-même faire ses tests, mais moi, je ne fais pas confiance en Ansible pour faire les tests que je développe avec Ansible. Mais ça, c'est un autre sujet.
Mais pour le coup, nous on a une strat peut-être un peu plus bourrine où je suis, mais que je juge un peu plus complète, c'est qu'on n'a pas investi de temps dans la partie test automatique. Pour l'instant, on n'était pas sur Ansible aussi, donc il y a encore moins d'outils sur l'outil qu'on utilise. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, ben on prend un peu de temps pour détruire les infras totalement et les recréer de zéro avec la restauration de backup automatique. Et mine de rien, en fait, ça permet de tester toute la stack de code, Terraform, et aussi bah, des backups. Donc du coup, on essaie de faire une pierre deux coups, si j'ose dire, mais rajouter des tests automatiques, ça sera à terme pas un mal.
Et moi, de mon côté, j'utilise SaltStack, donc il y a encore moins d'outils pour tester. Alors, il y a TestInfra qui existe. Je crois qu'on peut utiliser TestKitchen pour faire à peu près la même chose que Molecule. Et en fait, alors la manière dont je développe des nouvelles fonctionnalités, c'est que je lance l'équivalent du playbook du rôle en mode dry run sur toute mon infrastructure pour vérifier si j'ai des delta avant de faire quoi que ce soit. Et là, ce que j'ai commencé à faire, donc pour l'instant, j'ai terminé la partie Terraform, je fais un dry run toutes les nuits et je vais remonter les deltas sur mon infrastructure. Et effectivement, à terme, l'idée, c'est de rajouter du test infra pour tester toutes les combinaisons possibles pour l'équivalent des rôles. Et après, le playbook, finalement, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de tester un playbook puisque le vrai test, c'est le monitoring de l'infra. Mais là, c'est encore une très longue discussion qu'on pourrait lancer.
Tout à fait. Mais du coup, on va passer à l'outil suivant. Et c'est un outil dont j'ai déjà parlé, mais tu vas nous faire un petit update parce que tu as une nouveauté dessus. Nicolas.
Tu as vu comme sans le vouloir, j'ai fait une transition parfaite puisqu'on va encore parler de monitoring et monitoring de nos infras. Et en fait, je l'avais rajouté dans les notes de l'épisode et c'était une question qu'il y avait eu dans le forum des compagnons. Donc une personne cherchait à monitorer une infrastructure de manière assez simple. Un des compagnons lui a répondu bah, tu déploies du Prometheus, du Grafana et puis je sais plus quoi. Alors on n'a pas la même notion de la simplicité, mais pourquoi pas. Moi j'avais répondu à l'opposé avec Monit et en fait en cherchant des outils intéressants tout à l'heure, j'ai pensé à un autre outil qui et j'ai répondu au compagnon, c'est Uptime Kuma. Donc effectivement Christophe en avait parlé dans les news. Mais je le revois passer de plus en plus et dans les notes j'ai mis un lien vers une vidéo. Donc c'est un gars qui s'appelle Network Chuck. Donc si vous y mettez un mec boosté au café qui parle très très vite, alors bon il faut suivre le niveau en anglais aussi. J'aime bien ces vidéos pour découvrir des nouveaux sujets. Si vous êtes confirmé, ça va peut-être moins vous intéresser, mais il a fait une petite vidéo sur le monitoring et il parlait de Uptime Kuma. Donc, je vous incite à regarder si vous connaissez pas l'outil, parce que ça vous permet de monitorer votre infrastructure de manière très très simple. Moi, je l'utilise pour monitorer mes infrastructures de monitoring. Donc, c'est une manière de voir les choses. Mais j'avais un trou dans la raquette. C'est quand mon monitoring était par terre, j'étais pas au courant. Donc, maintenant, je le suis. Voilà.
Mais nous aussi, on utilise Uptime Kuma depuis quelques temps en production, en plus de Grafana. Et on s'en sert notamment pour faire des pages de statut à nos clients, puisqu'on a des services d'infogérance. Et du coup, quand on infogère des services pour des clients, bah, on leur crée une page de statut sur Uptime Kuma. Et comme ça, dès que leur service tombe, on est informé. Donc ça, ça vient en plus de notre Grafana, justement. Et c'est un très bon petit outil, en effet.
Moi, j'avoue qu'on a un peu... On a une personne, disons, qui est assez fan de Grafana, donc on a tout dans Grafana. Et c'est un peu bah, pareil, on a un peu nos dashboards par client avec les différents sites où les métriques HTTP remontent de plusieurs endpoints dans différents pays et chez différents fournisseurs d'accès pour avoir des métriques un peu parlantes sur le peering, etc. Donc on n'a pas vraiment ce besoin pour l'instant, on a vraiment fait un truc un peu maison et qui marche plutôt bien et qui est assez complet. Mais c'est une bonne solution effectivement pour dépanner ou des petits besoins.
Mais du coup, vous mettez à disposition de vos clients ces pages-là avec ces dashboards de chaque client ou... D'accord.
Oui, en fait, chaque client a un espace Grafana avec du coup pas que ça, ils ont même des graphes plus précis sur l'infra, etc. S'il y a des devs ou des techs qui ont besoin. Et le but, c'est vraiment de fournir un maximum possible de métriques pour que les techniques et les non-techniques puissent avoir les informations sur l'infrastructure, sur leur consommation. On est encore en train de le faire évoluer, mais typiquement, tu peux avoir du coup dedans les statuts de ton déploiement cube, de la synchronisation et aussi bah, les, tout ce qui est métrique, on va dire SRE, donc les SLA, les SLA et tout ce, qui s'ensuit pour pouvoir suivre si on est dans les objectifs ou pas.
Ouais, clairement, on n'est pas dans le même objectif. Nous, c'est souvent ces clients-là auxquels je pense, c'est pas des clients tech du tout. Et eux, ils veulent juste savoir si leur service est up ou pas. Donc, Optemkuba, c'est parfait pour ça, en tout cas. Tu confirmes, Nicolas ?
Oui, alors je vais compléter. Du coup, effectivement, moi aussi, j'ai encore du Zabbix pour certaines infras qui sont sur des serveurs dédiés. Je mets des stacks Prometheus avec du service Discovery dans tous les sens sur les infras plus modernes, cloud et compagnie. Et j'ai tellement d'infras parce que chez un client, j'ai déployé une stack de monitoring par environnement pour pouvoir faire des montées de version tranquillement. Donc, j'ai 4 ou 5. J'en ai peut-être même pas loin d'une dizaine maintenant de stack Prometheus. Et en fait, ma plus grosse inquiétude, c'était qu'elle tombe et que je ne sois pas au courant. Et récemment, un client m'a parlé de problèmes de stabilité sur son infrastructure. Il me remontait des stacks qui n'étaient pas disponibles de manière aléatoire. Je me suis dit que j'allais en profiter pour monitorer tout ça. Donc, je monitore tous mes... Alors, c'est Alert Manager que j'ai monitoré, mais qui tourne avec le Grafana à côté. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être être intéressant qu'on refasse un petit épisode sur l'outillage du monitoring, parce que j'avais eu une discussion avec un collègue. Il y en a qui utilisent Grafana, il y en a qui utilisent Alert Manager, et ça pourrait être intéressant de refaire un petit panorama de tous les outils et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, surtout que Grafana bosse pas mal pour créer des nouveaux produits pour un peu faire toute la chaîne, donc il y a des choses intéressantes. Enfin, perso, c'est pas encore testé, mais il y a des choses qui se font apparemment.
Ben, on en parlera alors pour les émissions de 2023. Qu'est-ce que vous en dites ? On en discutera sur le forum. Et ça me fait une transition parfaite pour t'inviter, toi, cher auditeur, à venir discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps. La communauté, c'est le podcast, les vidéos, etc. Mais surtout, c'est un forum dans lequel tu peux venir discuter. On est déjà plus de 1000 puisqu'on atteint presque les 1300 membres sur le forum et ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de questions et tu l'auras compris, on parle aussi pas mal et on parle de Docker sur le forum puisqu'on a parlé de Docker un petit peu, on parle de supervision aussi. Donc n'hésite pas à venir, en plus c'est complètement gratuit, tu t'inscris et puis pouf, t'auras ton compte qui sera créé directement. Eh ben moi je vais vous laisser à tous les deux le mot de la fin et je vais commencer par Damir. Damir, est-ce que tu as un petit mot pour nos chers auditeurs auditrices?
Ben merci de nous avoir écoutés. J'espère que malgré tout vous profitez pour déconnecter un peu pendant ces magnifiques fêtes de fin d'année et je vous souhaite de bien en profiter, de retrouver vos proches et de déconnecter un peu, ça fait du bien de temps en temps.
Et Nicolas enfin.
Bah moi, à l'inverse, je vais vous inciter à vous connecter sur le forum des compagnons pour venir discuter avec nous, de profiter de cette trêve de Noël où vous n'avez pas le droit de toucher à vos infrastructures pour tester des nouveaux outils et pour redémarrer une année 2023 sur des chapeaux de roue.
Ben moi, je vais profiter de la trêve de Noël parce que je serai en vacances pour ranger mon bureau et mon appartement et donc ne pas toucher à mon ordinateur. D'ailleurs, ce podcast sera le dernier de l'année 2022 et on se retrouvera en 2023 pour parler de tout un tas d'autres choses. Et je te souhaite à toi, cher auditeur et auditrice, de très bonnes fêtes de fin d'année et un bon nouvel an.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt! La balado diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.